Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'être au cœur du débat qui ne va pas opposer, mais qui permettra en tout cas un dialogue entre Olivier Maguin et Sébastien Van Hogenbroek. Je ne dois pas les présenter ni l'un ni l'autre. Ils ont finalement tous deux la qualité d'être avant tout des intellectuels, même si l'un fait de la politique. Et l'autre à sa manière fait de la politique aussi, donc mais pas dans le même contexte et dans le même cadre. Si nous avons pensé à organiser ce débat, c'est parce que pour ce qui me concerne, j'essaye de ne pas déraper. C'est quelque chose que j'ai trouvé salutaire et original. Olivier Maguin a été un des premiers, je crois, sur le plan normatif à proposer un changement tout à fait copernicien de la manière dont on conçoit la laïcité dans ce pays. Et c'est vrai que cette laïcité est au cœur de multiples débats. Pour le moment, d'ailleurs, devant la Cour constitutionnelle, se tient une procédure à propos du cours de morale qui n'est pas totalement anodine, parce que dès le moment où la laïcité à la belge a souhaité bénéficier d'une reconnaissance constitutionnelle, ce qui a été apprécié diversément par les uns et par les autres, le terme même de laïcité a perdu ce qu'il pouvait avoir d'originaire dans sa définition historique, c'est-à-dire un combat pour la séparation de l'Église et de l'État. Et dès le moment où la laïcité s'est muée en culte non religieux, bien, il est clair que le terme même est devenu ambigu et s'est retrouvé à certains égards en déshérence dans ce qui était son objectif initial. Et c'est en cela que débattre ce soir me paraît particulièrement intéressant et entendre à la fois une vision et sans doute une autre sur la nécessité d'affirmer une laïcité de l'État au-delà et par-delà et peut-être même par-devers le culte laïque est un enjeu qui me paraît digne de débat et d'intérêt. Et voilà Olivier, ce qui était une rampe de lancement, du moins j'espère.
Bien, merci de l'invitation, merci de votre présence. Exercice périlleux de venir me confronter à vos opinions et à l'opinion du professeur Van Hogenbroek sur un sujet dont il faut bien reconnaître qu'il n'est sans doute pas susceptible de passionner les foules, ni même de passionner les politiques, peut-être parce que trop intellectuel ou pas assez actuel, je ne sais. Fondamentalement, je ne peux pas dire que j'ai entraîné jusqu'à présent, même parmi les plus convaincus de la laïcité, que j'ai pu avoir une force d'entraînement pour susciter le débat au Parlement. Mais c'est peut-être à force de revenir sur le sujet qu'un jour, ou en raison de circonstances particulières, on pourra en débattre à un moment donné. Alors, d'où, pourquoi d'abord me suis-je un jour posé la question de savoir faut-il inscrire ou non le principe de la laïcité de l'État dans la Constitution ? Ça part d'une anecdote très précise, d'un débat politique, comme quoi les débats sont utiles à la réflexion, d'un débat que je faisais il y a une bonne quinzaine d'années à Molenbeek, où je suis interpellé par un membre de l'assistance qui me dit « L'enseignement officiel n'est pas réellement un enseignement public et pluraliste. » Interpellé, je lui demande d'expliquer son point de vue, et le point de vue qui m'est exprimé m'interpelle, il me dit « Non, si vraiment l'enseignement officiel était pluraliste, tous les cultes seraient représentés au sein du pouvoir organisateur. » Comme les cultes ne sont pas représentés au sein du pouvoir organisateur, l'enseignement officiel n'est pas un enseignement pluraliste respectueux de la diversité des opinions. Et donc je conteste le principe même de cet enseignement officiel. C'est là que je me suis convaincu de la nécessité de réfléchir à cette interpellation et de revenir à ce qui en effet me semble être une notion essentielle, peu utilisé, et on va faire sans doute des distinctions dans la définition, peu utilisé dans le débat politique et a fortiori dans le débat juridique belge, même s'il y a eu des allusions à différentes reprises, et je ne parle pas de ma modeste initiative parlementaire, je parle éventuellement parfois de débats judiciaires ou juridictionnels et d'avis du Conseil d'État notamment. Alors, on connaît notre système constitutionnel, on sait quelles sont les origines du pragmatisme de l'accord entre libéraux et catholiques à l'origine de la Belgique, et des quelques articles qui traitent ce que d'aucuns qualifient d'une séparation unilatérale de l'État et à l'époque de l'Église catholique. Nous ne sommes maintenant pas dans une logique de grande pluralité des Églises à l'époque. Et on ne peut pas pour autant déduire des articles 19, 20, 21 et 24, le 24 est plus récent dans sa forme actuelle, qu'on a vraiment là la consécration du principe de la laïcité de l'État. Je vais revenir à cette notion par la suite. On est dans une sorte de conception, alors que certains considèrent plus comme proche du régime concordataire français, et d'autres dans un régime de séparation passive entre l'État et l'Église catholique à l'époque, sans qu'on puisse vraiment parler d'une affirmation, et d'ailleurs la Constitution n'emploie pas le terme de laïcité, pas plus que la Constitution ne parle de neutralité de l'État. Alors je ferai un sort à la notion de neutralité de l'État dans un deuxième temps, notion qui moi me laisse une très très grande perplexité, mais j'y reviendrai. Disons que certainement il y a dans l'évolution même constitutionnelle un apport non négligeable de réforme avec l'article 24 qu'il faut quand même relire. Lorsque les communautés deviennent pouvoir compétents en matière d'enseignement, on a modifié la Constitution, on le sait, article 24, l'enseignement est libre, la communauté organise un enseignement qui est neutre. Là, il y a une notion de neutralité. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. C'est d'ailleurs cette phrase-là qui donne lieu à débat devant la Cour constitutionnelle. Y a-t-il une obligation, finalement, de suivre même un cours de morale non confessionnelle ou un cours lié à une religion? C'est déjà en soi un choix philosophique. Bien, on sait aussi l'article 181 de la Constitution. Alors, les exégètes diront « subtilité, ce n'est pas la reconnaissance du culte, ce n'est que le financement des officiants du culte. » Soyons de bon compte, merci. On est quand même arrivé, par le biais de cet article, à avoir une forme de reconnaissance des cultes, en ce compris du courant philosophique qui se dit laïque. J'ai toujours regretté qu'on n'ose pas affirmer l'athéisme ou l'agnosticisme plutôt que la laïcité philosophique, ce qui me semble être une dangereuse confusion des notions, parce que je crois que la laïcité politique n'est pas l'apanage des seuls athées, pas plus que d'un culte déterminé. Pour ceux qui veulent relire, même Pie XII, le pape Pie XII a dit à un moment donné, au moment de l'adoption par la France dans son article 1er de la Constitution en 1946 du principe de la laïcité de l'État, que c'était un des fondements du culte catholique, la laïcité. Ça, je dois dire, c'était assez audacieux, mais comme quoi les tentatives de récupération sont toujours permises quand, à un moment donné, une certaine affirmation de l'autorité est démontrée. Alors, voilà, il y a incontestablement des articles constitutionnels en Belgique qui régissent les rapports entre l'État et l'expression publique du culte. Est-ce suffisant? C'est le propos d'un certain nombre d'intervenants dans ce débat politique. C'est le propos, par exemple, de Francis Delperret, mais c'est aussi le propos d'un auteur dont je relisais le livre récemment, « La Belgique est à laïque ou presque », du professeur Jean-Philippe Schreiber, qui enseigne dans cette université, et qui dit « Ne venez pas avec un débat sur le principe même de la laïcité de l'État ». Notre Constitution elle-même suffit. Certes, il faudrait nettoyer peut-être certains aspects de l'article 24 de la Constitution, mais ça suffirait si on renforce le caractère public et laïque de l'enseignement. Nous aurions rencontré les objectifs de la laïcité de l'État. N'en venez pas avec un débat sur la notion de laïcité de l'État. Ça relève du symbolique et ça risque d'être une muletta devant certains esprits qui pourraient y prendre ombre. Or, moi, je reste fermement attaché à la notion de la laïcité de l'État. Et je m'inscris pour ce faire dans un courant de pensée, sans doute un des penseurs français les plus affirmés de la laïcité de l'État, c'est Henri Pénard-Ruiz, pour ceux qui voudront avoir les références, il a commis plusieurs livres intéressants, dont, pour prendre une bonne synthèse de sa réflexion, le dictionnaire amoureux de la laïcité, et je vais revite reprendre ce qu'il dit de la laïcité. Il dit « Le mot laïcité dans son étymologie fait référence à l'unité indivisible du peuple, en grec le laos, considéré comme référence fondatrice des règles qui organisent la vie commune. Trois exigences indissociables donnent sa force intégratrice à la laïcité. » Intégratrice, j'aime le mot, mais ce n'est pas un concept neutre. « La liberté de conscience, irréductible à la seule liberté religieuse, qui n'en est qu'une version particulière. » L'égalité de droit de tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions ou leurs options spirituelles, et le primat de l'intérêt général du bien commun à tous comme seule raison d'être de l'État. Voilà ce qu'il considère comme étant les fondements de la notion de laïcité de l'État. Vous voyez bien les trois dimensions. Autrement dit, on ne peut pas réduire la conception de la laïcité de l'État au seul débat de la séparation de l'État et des Églises. Et d'autres études démontrent qu'en effet, il y a eu une sorte d'avancée historique de la notion qui a abouti de la laïcité de l'État. Et le rapport Stasi en France, qui a précédé la fameuse loi de 2004 sur le port des signes ou de tenues ostentatoires d'une conviction particulière, l'a bien démontré, ce rapport Stasi, c'est qu'il y a une évolution qui démontre fort bien que de la conception originelle de la laïcité de l'État, notamment consacrée par la loi de 1905 de la séparation de l'Église et de l'État ou des Églises et de l'État en France, jusqu'à la loi de 2004, on a eu un champ beaucoup plus ouvert de réflexion sur ce que signifiait la laïcité de l'État. Et j'accorde une importance particulière en ce qui me concerne dans la définition de la laïcité de l'État à la conception qui veut que l'autorité de l'État, c'est la primauté de la loi civile sur toute autre loi, l'autorité de l'État prime sur toute autre autorité, qu'elle soit religieuse, philosophique ou morale. Pourquoi ? Parce que l'autorité de l'État garant non seulement des libertés, est aussi garant d'un certain nombre de valeurs communes, et en somme, sans l'autorité de l'État, il ne peut pas y avoir d'État de droit. Et si l'État de droit est menacé par une autorité concurrente à l'autorité de l'État, c'est le débat démocratique et pluraliste qui n'est plus garanti. Et donc je crois que c'est ça l'évolution majeure de la notion de laïcité de l'État, c'est la consécration dans la Constitution du principe de la primauté de l'autorité de l'État, ce que Henri Peyrat-Ruiz appelle l'affirmation de l'intérêt général commun. Et nous verrons à travers la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que cette conception-là est aujourd'hui consacrée par la jurisprudence de la Cour européenne. J'évacue la notion de neutralité. Non pas qu'elle ne soit pas philosophiquement opérationnelle, elle peut être intéressante, mais elle est, je crois, par différence sur le plan juridique avec la notion de laïcité, elle est sans valeur juridique. Elle est sans valeur juridique parce que, par son expression même, elle traduit tout simplement un principe de non-ingérence de l'État dans la pratique ou l'exercice des libertés individuelles, et plus particulièrement de la liberté de pensée ou de la liberté de religion, et elle est une sorte d'abstention de l'État par rapport à cette liberté essentielle, et elle ne reconnaît pas à l'État la capacité, la notion de neutralité, ne reconnaît pas à l'État la capacité d'arbitrer des conflits de valeurs contradictoires, résultant éventuellement de convictions philosophiques ou religieuses différentes. Or, je crois qu'on ne peut pas construire un bien commun, un intérêt général, si on ne reconnaît pas à l'autorité de l'État la capacité, à un moment donné, d'arbitrer des conflits de valeurs qui résultent notamment des convictions philosophiques ou religieuses différentes. Voilà pourquoi je crois que la notion de neutralité de l'État, que certains voudraient inscrire, j'ai un excellent ami avec qui je fais régulièrement le débat, qui s'appelle Richard Millet, qui préfère l'expression « neutralité de l'État », et c'est souvent finalement le vrai motif pour lequel certains utilisent le mot neutralité de l'État, et ils le justifient mezzo voce sans oser l'affirmer publiquement, c'est parce que, me disent-ils, le mot laïcité, comme il a pris en Belgique une connotation liée à un courant philosophique, va réveiller un vieux conflit avec l'Église catholique, et qu'il est malencontreux de mettre, si je puis dire, de l'eau bénite sur le feu. Et donc, il n'est pas souhaitable que on ressuscite un tel débat, et donc il vaut mieux utiliser un terme plus faible que celui de laïcité, parce qu'on n'ose pas le mot, et on n'ose pas peut-être le concept et les idées qu'entraîne l'usage correct du mot. J'ai souvent eu l'occasion de dire que quand on n'ose pas le mot, c'est qu'on n'a peut-être pas les idées claires sur la notion que l'on veut défendre. Alors, si je veux l'inscription du principe de la laïcité de l'État dans la Constitution, on me dira quel est son effet juridique et quelle est éventuellement la sanction du non-respect du principe de la laïcité de l'État. Je fais un parallèle prudent, et il y a plus éminent juriste que moi autour de cette table, avec la notion de loyauté fédérale. C'était un débat aussi, quand on a introduit dans la Constitution, article 141, si j'ai bonne mémoire, la notion de loyauté fédérale. Est-ce que c'est une norme de comportement politique ou est-ce que c'est une norme d'effet juridique dans l'ordre juridique interne? Bon, on a vu quand même que la Cour constitutionnelle a donné une interprétation à la notion de loyauté fédérale. Et on a vu quand même que la Cour constitutionnelle en a tiré un certain nombre de conséquences, pas uniquement en termes de contrôle des compétences, mais aussi en termes de respect d'un certain nombre de principes de l'organisation institutionnelle de l'État. Eh bien, je crois que l'on peut connaître une évolution de même nature avec la notion de laïcité de l'État. Et j'en veux pour preuve, comme je crois que j'ai qu'un petit quart d'heure, je terminerai par cela. J'en veux pour preuve ce que la Cour européenne, et je le ferai en contrepoint de ce qu'a fait le Conseil d'État en Belgique, ce que la Cour européenne des droits de l'homme a tiré comme argument du principe constitutionnel de laïcité de l'État inscrit dans la Constitution française à travers une jurisprudence qui est maintenant bien affirmée et qui est tout à fait instructive. Et je me réfère en ça aux travaux du professeur de droit public français Emmanuel Decaux, qui a beaucoup écrit sur le sujet. On connaît deux arrêts importants de la Cour européenne des droits de l'homme, l'affaire Daugru contre France et Carvanchi contre France, qui sont des arrêts qui remontent à décembre 2008. Et chose intéressante, les faits qui ont justifié ces deux arrêts sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 15 mars 2004, pardon, encadrant en application, c'est très intéressant de connaître l'intitulé de la loi française qui a été votée sous la présidence de Jacques Chirac, la loi du 14 mars 2004, encadrant en application du principe de laïcité le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Ces deux arrêts de la Cour européenne sont intéressants parce que, en somme, ils ont anticipé d'une certaine manière et nourri tout le débat sur préparatoire à la loi, et incontestablement, la Cour s'est inspirée du débat préparatoire aussi à la loi. C'est tellement vrai. Cela lui a été reproché qu'un vice-président de la Cour européenne, le juge français, le juge Costa, avait participé aux travaux de la commission Stasi, ce qui n'était sans doute pas tout à fait sa place et son rôle. D'ailleurs, il s'est déporté dans les affaires qui ont donné lieu aux arrêts de la Cour européenne, mais ça c'est anecdotique, mais ça démontre. Et dans son raisonnement, donc je rappelle les faits, oui, parce que, excusez, je parle peut-être à partir de présupposés qui ne sont pas partagés. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit de deux étudiantes qui habitent à Flers, en France, qui sont de confession musulmane, et qui se présentent à partir de janvier 1999 au collège Jean Monnet, les cheveux couverts d'un foulard, notamment pour les cours d'éducation physique, et puis s'enchaînent évidemment les décisions administratives de la commission de discipline propre au lycée, et puis le recours au recteur de l'académie de Caen, et ainsi de suite. Donc, finalement, bien entendu, ces élèves sont exclus de l'école, recours, les juridictions françaises ne font pas droit à leur recours, l'affaire arrive devant la Cour européenne. Et le raisonnement de la Cour européenne fait une large part à l'analyse de la portée juridique du principe de la laïcité de l'État inscrit dans la Constitution française. Par plusieurs extraits, alors je ne vais pas tenter de vous résumer tout le raisonnement des deux arrêts, il faut les lire parce qu'ils ont après ça fondé quasiment toute la jurisprudence constante de la Cour dans ces affaires liées à l'expression publique de convictions philosophiques ou religieuses. La Cour rappelle à plusieurs reprises la portée réelle du principe de la laïcité de l'État et considère que dès lors que la France a inscrit ce principe dans sa constitution, cela autorise l'État dans sa marge d'appréciation pour déroger au principe absolu de la liberté de conviction d'apporter un certain nombre de restrictions. Et c'est très intéressant, je reprends par exemple parmi les références juridique de la Cour, elle fait aussi référence à l'important avis consultatif du Conseil d'État de France de novembre 89 à la suite d'une demande du ministre de l'Éducation nationale, qui était à l'époque Lionel Jospin, en réponse aux premières affaires du port du foulard islamique. Et que dit la Cour? Quelle est l'interprétation que donne la Cour de la notion de laïcité de l'État? Voici ce que je cite un extrait. Le rôle de l'État en tant qu'organisateur neutre et impartial. Soit dit en passant, alors, si on ne veut pas la notion de neutralité de laïcité, la notion d'impartialité me semble plus prolifique que la notion de neutralité. Donc, le rôle de l'État en tant qu'organisateur neutre et impartial de l'exercice des diverses religions, cultes et croyances, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique. Le pluralisme et la démocratie doivent également se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis qui implique nécessairement de la part des individus des concessions diverses qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d'une société démocratique. Et je crois qu'en disant cela, la Cour a bien résumé ce qu'est la portée réelle de la laïcité de l'État. La laïcité de l'État, ce n'est pas que la cohabitation juxtaposée des convictions religieuses ou philosophiques diverses. C'est la nécessité qu'ont chacun de ces courants philosophiques ou religieux de rejoindre un certain nombre de valeurs communes sur lesquelles on considère qu'on ne peut pas transiger, l'égalité homme-femme par exemple, bien entendu le refus des politiques de discrimination, l'égalité devant la loi, et ainsi de suite. Parce que vous ne pouvez pas fonder une adhésion à un État démocratique si continuellement, il y a une remise en cause d'un certain nombre de valeurs au nom d'un certain relativisme confessionnel ou religieux. Et c'est cela l'enseignement de la notion de la laïcité de l'État à travers la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. A l'inverse, le Conseil d'État en Belgique a malheureusement, dans un arrêt de 2010, assimilé la notion de laïcité à un courant philosophique, réduisant ainsi évidemment la portée, et s'abritant plutôt derrière la notion de neutralité de l'État, dans une version encore, dans une interprétation encore très restrictive, qui tient plus à la conception originelle de notre Constitution et des articles que j'ai précités au début de mon exposé, qu'à une conception véritablement de séparation affirmée de l'État. Dernière réflexion, on voit qu'il peut y avoir une construction jurisprudentielle au départ d'une notion telle que celle de la laïcité de l'État. Bien entendu qu'une notion constitutionnelle appelle des applications par des législations appropriées et proportionnées aux objectifs que le principe constitutionnel consacre. Ce serait évidemment lié au débat que l'on n'ose pas porter de manière affirmée, qui est la question en effet de l'expression publique de certains comportements liés à des convictions personnelles, philosophiques ou religieuses. C'est le problème du port du foulard, mais pas exclusivement, et donc je ne suis pas sûr que les seuls fondements constitutionnels existants à l'heure actuelle permettraient d'avoir l'équivalent d'une loi française en droit belge. Mais c'est aussi le problème de l'interdiction de la présentation aux élections de forces politiques ou de rassemblements qui n'adhèrent pas à des valeurs démocratiques essentielles. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes totalement démunis sur le plan juridique pour pouvoir éventuellement censurer, ce qui ne veut pas dire que ça doit être laissé à la seule appréciation des autorités administratives ou politiques. Je crois qu'il faut mettre en place un processus juridictionnel approprié, à déterminer. Mais je crois qu'aujourd'hui, sur le plan juridique, nous sommes totalement démunis pour pouvoir sanctionner éventuellement d'une interdiction la présentation de candidats ou de forces politiques qui contredisent à des valeurs essentielles. Et donc il y a là un champ de débat démocratique qu'il faut avoir le courage d'affronter, non pas pour restreindre des libertés, contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, mais pour au contraire les fortifier. Voilà ce que je voulais dire en résumé.